Europe 1. Bonjour, vous écoutez les grandes interviews d'Au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Je suis Virginie Giraud. Il est le joyau de votre frigo, le fromage. Camembert, Roquefort, Comté ou encore Reblochon. La France en compte plus de 1200 variétés différentes. De quoi varier les plaisirs et ravir nos papilles. Mais le fromage, ce n'est pas que de la gastronomie. C'est aussi de l'histoire, une aventure culinaire qui commence avec les premiers élevages d'animaux et la nécessité de conserver les produits laitiers sur le long terme. Pour revenir sur l'histoire de ce produit incontournable qui fait la gloire de nos tables françaises, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Bialouez, ingénieur agronome et sociologue, spécialiste de l'agriculture et de l'alimentation. Bonjour Éric Bialouez.
Bonjour Virginie.
Alors commençons par une question cruciale. Le fromage, est-ce que c'est typiquement français ?
Je répondrai oui et non. Alors bien sûr, la France, on le sait bien, c'est un grand pays de fromage, c'est une terre de fromage, mais on fait aussi du fromage et des bons fromages dans d'autres pays. Et puis c'est pas les Français du tout qui ont inventé le fromage. Alors si on veut parler de singularité ou de spécificité française, il y en a une qui est la manière de servir le fromage. Ah. En France, et là c'est vraiment unique au monde, et bien vous le savez, le fromage, en tout cas dans les repas festifs ou gastronomiques ou même familiaux, c'est une séquence à part entière de ce que nous appelons le vrai repas. Donc on a l'entrée, on a les entrées, le plat principal, le fromage et le dessert, le fromage servi sur un plateau. Et ça, on l'a pas ailleurs. Ailleurs, on mange du fromage, on va le grignoter tout au long de la journée, on va en faire des sandwichs, on va l'utiliser comme ingrédient culinaire, mais vraiment, le plateau de fromage, c'est typiquement français et ça montre bien la place prééminente du fromage.
Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un chariot de fromage dans un restaurant gastronomique qui arrive sous votre nez avec tout ce qu'il propose ? Bon, sans aller si loin, parce que moi je vais commencer à avoir faim, revenons au fromage et à son histoire. Est-ce qu'on sait à quelle époque le fromage apparaît ?
Oui, on en a une idée relativement précise, c'est qu'il y a à peu près 10 000 ans. Alors, c'est pas par hasard, évidemment, que c'était il y a 10 000 ans, c'est au moment où l'homme a pu enfin disposer de lait animal. Et pour cela, eh bien, il a fallu tout simplement qu'il domestique des animaux qui étaient des animaux sauvages et que, on les a domestiqués et puis on a pu utiliser leur lait. On n'imagine pas un chasseur du paléolithique courir après une femelle d'auroch, l'attraper, la traire. La femelle d'auroch sauvage aurait évidemment retenu son lait. Donc il faut domestiquer les animaux et c'est ce qui aura été fait donc avec différents animaux pour avoir du lait en quantité et qui permet donc la fabrication du fromage. Alors, quand je disais 10 000 ans, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est très récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité, qui commence il y a 2 millions et demi d'années. Donc 10 000 ans sur 2 millions et demi d'années, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 99,6%, j'ai calculé, c'est précis, de l'histoire de l'humanité, eh bien, c'est une humanité sans fromage. Donc c'est très très récent que l'on a du lait et que l'on peut le transformer en fromage.
Les pauvres. Et est-ce qu'on a une idée un petit peu des traces archéologiques de la façon dont était fait le fromage ? Est-ce qu'on prend du lait de chèvre, de brebis, de vache ? Comment tout cela se passe historiquement ?
On a effectivement des vestiges archéologiques, alors pas forcément des vieux bouts de fromage qu'on aurait retrouvés, qui sont pas bien vraiment conservés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé des fragments de moules à fromage, c'est-à-dire des petits récipients de terre cuite percés de trous, et les archéologues nous disent que ces faisselles, on les appelle comme ça, servaient à égoutter le caillé. Le caillé, c'est la matière première de la fabrication du fromage, et les plus anciens vestiges de moules à fromage, de faisselles, ils datent de 9500 ans. Alors, on les a pas retrouvés en France, on les a retrouvés dans le fameux croissant fertile, donc du côté du Liban, de la Palestine, d'Israël, de la Syrie, de la Jordanie et un peu plus tard de Turquie. Et en Europe, les plus anciennes traces de fabrication, et donc on imagine de consommation de fromage, remontent à 7200 ans, et c'est en Pologne qu'on les a retrouvés.
Est-ce qu'on a une idée du goût de ces premiers fromages ?
Moi, j'aimerais bien le savoir, mais c'est très difficile d'en avoir une idée, de la même manière qu'on ne peut pas avoir l'idée du goût des vins de l'Antiquité, par exemple, ou des légumes
du
Moyen-Âge. Alors oui, on essaye de les reconstituer comme on peut, mais vous savez, le goût du fromage, ça dépend d'énormément de facteurs. Déjà, vous parliez tout à l'heure des espèces animales. Effectivement, on le sait, le lait de vache n'a pas tout à fait le même goût que le lait de chèvre ou le lait de brebis ou le lait de yak, par exemple. Ça dépend évidemment de ce que les animaux vont consommer, de l'herbe, de la qualité, de la diversité des espèces qui forment l'herbe, qui elle-même dépend du climat, qui dépend de la saison. Et puis du goût du fromage, il ne faut pas l'oublier, ça dépend des savoir-faire, c'est-à-dire comment on le fabrique, ce fromage. Il y a tellement de techniques et de manières différentes de faire du fromage qu'on a des goûts différents. Et que finalement, les goûts du fromage d'il y a 10 000 ans, on serait bien en peine de le dire. C'est pas sûr que c'était mieux avant, ceci dit. On a quand même, je pense, amélioré les techniques de fabrication du fromage. Et on maîtrise mieux les facteurs que j'ai évoqués.
Je pense aussi qu'on a amélioré nos techniques. D'ailleurs, est-ce qu'on a une idée de l'étymologie du mot fromage ? Ça vient d'où ?
Oui, alors, qu'est-ce que c'est le fromage ? Au départ, c'est du lait qu'on va faire coaguler, que l'on va faire cailler. Et ce cailler, on va le verser dans un moule, donc j'ai parlé tout à l'heure des faisselles, un moule percé de trous qui va permettre l'égouttage. Et ce moule, évidemment, bah, s'il est carré ou s'il est rond, bah, il donne sa forme au fromage. Et ce moule, en latin, on l'appelait autrefois forma. Forma, donc ça veut dire la forme, et ça désignait le moule. Donc vous voyez, forma, formage, l'italien formaggio, et le fromage, avec un petit déplacement de la lettre R, est devenu fromage. Et puis, il y a une spécialité fromagère auvergnate qui s'appelle la fourme et qui nous rappelle cette étymologie. Hein, fourme, fromage, et puis après, fromage. Alors, il y a quand même une autre racine pour désigner le fromage, une autre racine latine d'ailleurs, qui est le mot caseus et qui a donné cheese en anglais, käse en allemand, casse en hollandais, queijo en portugais, queso en espagnol. Donc il y a ces deux, voilà, ces deux,
et avec ces la deux caséine, origines. C'est ça, une protéine qui sert à faire du fromage.
La caséine, bien sûr.
Alors justement, revenons à l'invention du fromage. Il y a un moment, il faut en avoir l'idée quand même, parce que c'est pas tout d'avoir du lait. Comment on se dit, tiens, avec mes jars de lait là dans ma terre cuite, je vais pouvoir inventer quelque chose d'extraordinaire pour le conserver ? Comment ça vient ?
Ah oui, c'est toujours une question que je trouve assez passionnante. Alors on a quand même une petite idée, qui est de dire que finalement le fromage, il s'est en quelque sorte inventé tout seul. L'hypothèse que l'on fait, parce qu'on sait que ça marche, c'est qu'à un moment, les gens avaient du lait. Les premiers éleveurs, il fallait le stocker, il fallait le transporter, et ils ont eu l'idée, comme ils le faisaient avec d'autres aliments, enfin d'autres liquides, de le mettre dans des gourdes ou des outres qui étaient faites avec l'estomac d'un ruminant, d'un jeune ruminant, donc un agneau, un veau, un chevreau. Et on s'est rendu compte que qu'en mettant du lait dans l'estomac d'un jeune ruminant qu'on avait sacrifié, eh bien ce lait aller cailler, tout simplement parce que l'estomac complexe du jeune ruminant qui tète le lait de sa mère, eh bien, il produit deux enzymes, et on appelle ça la présure. Et le rôle de la présure, c'est de faire cailler le lait dans l'estomac du jeune ruminant. Donc, on met du lait dans l'outre ou la gourde en peau, enfin, en estomac de ruminant. On constate que le lait est caillé, on le goûte, on trouve que c'est pas mauvais, et puis on se rend compte de deux intérêts du fromage. La première, c'est que, bon, évidemment, on va pouvoir conserver le lait, et puis, également, c'est un point important, qu'on va digérer. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne digère pas le lait à l'état liquide, les premiers éleveurs. Par contre, quand le lait est caillé, c'est-à-dire qu'il est transformé par tout un tas de réactions chimiques et physiques, et bien là, il devient digeste. Et donc, c'est comme ça, sans doute, que les éleveurs, ils se sont rendus compte très concrètement que le lait dans l'estomac du ruminant caillait et que c'était tout à fait digeste.
Alors, une fois qu'on a découvert le fromage un peu par accident dans ces outres, comment on fait après pour standardiser, d'une certaine manière, la fabrication du fromage ? Il y a des processus qui se mettent en place dès la fin de l'époque du bronze
Oui, bien sûr, on apprend petit à petit. C'est pas évident au départ, ça marche pas à tous les coups. Et puis, on perfectionne la technologie. Vous savez, la manière de faire le fromage aujourd'hui, c'est toujours un peu les mêmes étapes que celles d'autrefois. Bon, évidemment, on l'a dit, on va partir du lait. Alors, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que ce lait, on va en quelque sorte le préparer, puisque vous savez qu'il y a deux types de fromages. Il y a les fromages au lait cru, dont nous sommes tellement fiers ici en France, et les fromages au lait pasteurisé, hein, au lait qui a été chauffé. Alors, les fromages au lait pasteurisé, c'est aujourd'hui 85% des fromages, donc 15% quand même de fromage au lait cru. La différence, c'est que dans le cas du lait pasteurisé, on va chauffer le lait au-delà de 72 degrés, entre 72 et 99 degrés. Ça a un avantage, mais ça a aussi un inconvénient. L'avantage, c'est que ça va tuer toutes les bactéries, les micro-organismes présents dans le lait, donc tout ce qui est pathogène, potentiellement néfaste à la santé. Et ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'on tue toutes les bactéries quand on fait chauffer le lait, qu'on perd donc le goût tellement typique et variable dans le temps de nos fromages au lait cru. Donc ça, c'est la première chose. Alors, si le lait est pasteurisé, on doit rajouter des ferments, des bactéries, des levures, des moisissures pour démarrer la coagulation du lait. Et puis, la deuxième étape importante, c'est, on l'évoquait, le caillage. Et donc là, on va utiliser la présure, qui est donc ces enzymes, soit que l'on extrait de l'estomac de jeunes animaux.
Mais alors, comment on fait pour extraire cette présure?
On fait tremper. L'animal est. On a abattu des jeunes animaux. On prélève leur caillette, qui est le nom de cette poche de l'estomac qui fabrique la présure. Et puis, on la fait macérer dans de l'eau. Je crois que c'est même de l'eau salée. Et puis, on obtient une substance qui est la présure animale. Mais il y a aussi des présures végétales qui sont encore utilisées. Par exemple, le sucre du figuier, les fleurs de chardon, tout un tas d'herbes qu'on appelle des caillets qui ont aussi la possibilité de faire coaguler, cailler le lait. Et enfin, aujourd'hui, on utilise de plus en plus ce qu'on appelle des coagulants, qui sont des molécules, des enzymes produites par des bactéries, des levures que l'homme a sélectionnées en laboratoire par génie génétique pour produire cette présure. Donc ça, c'est la deuxième étape, le caillage du lait. Et puis après, pour aller vite, ce caillet, on va le laisser s'égoutter, on va parfois le presser, on va le travailler, on va le saler, il faut du sel pour avoir du fromage qui se conserve. Et puis ensuite, pour certains fromages, donc en dehors des fromages frais, des fromages blancs, il y a l'affinage qui est une étape importante puisque c'est là que va se développer la croûte, que vont se développer les bons arômes du camembert ou du maroilles.
Alors on quitte la préhistoire et la protohistoire pour arriver à l'Antiquité. De quelle manière voit-on le fromage dans le monde grec, dans le monde romain? C'est un mets qui est apprécié?
Alors, c'est vrai que si on lit un peu les textes de l'Antiquité, initialement, le fromage n'a pas à l'origine, en tout cas, une très bonne image. Si vous lisez, par exemple, l'Odyssée d'Homère, on vous parle du cyclope, Polyphème, qui est un être sauvage, effrayant, terrifiant. Il a qu'un œil, il est brutal, violent. Et on sait qu'il se nourrit principalement du lait de ses chèvres, de ses brebis, du lait qu'il transforme également en caillet, donc en précurseur, en quelque sorte, du fromage. Et puis ce que l'on voit, c'est que au fil du temps, quelques siècles plus tard, chez les Grecs, chez les Romains, le statut du fromage devient plus positif. Par contre, le lait reste toujours finalement dévalorisé. Alors, pour quelle raison? Et ça, c'est intéressant, parce que le lait, on considère que c'est l'aliment des barbares, de ceux qui sont pas comme nous, de ces peuples finalement un peu, un petit peu.
Le barbare,
sauvage,
c'est celui qui ne parle pas latin.
Voilà, qui parle pas, qui n'est pas grec, qui ne parle pas le latin, qui fait pas partie de l'empire. Et donc, ce barbare, lui, il mange la viande crue, dit-on, il boit le lait brut des animaux, alors que le fromage, c'est un aliment qui est transformé par le génie de l'homme. Donc c'est un aliment de civilisé. Et donc ça le rend plus noble finalement aux yeux des Romains, aux yeux des Grecs. Ceci dit, dans l'Antiquité, on mange du fromage, mais ça reste quand même l'aliment du berger, l'aliment du paysan. Donc sur les tables des élites sociales, des riches, le fromage, c'est pas encore tout à fait ça, il faudra un petit peu de temps.
On arrive au Moyen-Âge et là on a l'impression que le fromage devient un peu l'apanage des moines, des abbayes. Ce sont eux les plus grands fabricants de fromage à cette époque?
Ah mais oui, mais tout à fait, les moines ont joué un rôle très important. Alors on le sait dans le vin qui est un complément du fromage.
J'allais donner une marque,
Le fromage également. Alors déjà parce qu'il y a la règle de Saint-Benoît qui va régler les communautés
labora,
monastiques. Voilà,
ora et labora.
Il faut prier, mais il faut aussi travailler. Donc, que vont faire les moines? Et puis, il y a une autre règle qui est d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la communauté le plus possible. Donc, les moines, on le sait bien, ils vont défricher des forêts, ils vont drainer, assécher des marécages, ils vont cultiver des terres, il y aura des prairies également sur lesquelles on pourra faire de l'élevage laitier. Et puis, comme le fromage, on l'a dit, c'est un aliment populaire, eh bien, les moines, en mangeant du fromage, eh bien, ils montrent finalement leur vœu d'obéissance, leur vœu de pauvreté, d'humilité. Il ne faut pas oublier que la très grande majorité des moines, à l'époque, ce sont des nobles. Ils sont issus de familles nobles, tout au moins pour les moines de cœur. Et donc, en mangeant du fromage et non pas la viande, aliment du riche, du puissant, eh bien, ils font preuve, donc, comme je le disais, de pauvreté et d'humilité. Et puis, comme, en principe, la viande est interdite dans les communautés monastiques, eh bien, le fromage est un bon substitut nutritionnel. Bon, à l'époque, on connaît évidemment pas les protéines animales et tout ça, mais en tout cas, c'est un aliment qui complète la ration alimentaire, pas tous les jours, mais de temps en temps.
Bon, le fromage reste longtemps un aliment pour les gens modestes, mais alors à quel moment le fromage prend-il ses lettres de noblesse? Quand est-ce qu'il devient un mets presque de luxe? Parce que quand on voit le prix du fromage aujourd'hui, chez le fromager, on y laisse quand même un petit pactole.
Oui, les choses en fait, elles vont s'accélérer, surtout à partir du 19e siècle. C'est la révolution industrielle qui va pénétrer évidemment dans l'élevage, dans l'agriculture, et puis on va améliorer les technologies et commencer à industrialiser la fabrication de fromage. Donc voilà, on aura de plus en plus de fromage, il va devenir de plus en plus fréquent à la table des gens, tout en restant, en tout cas pour les fromages de qualité, quand même, comme vous le disiez, quelque chose qui n'est pas accessible tout le temps.
Et à quel moment il prend sa place, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre le plat principal et le dessert sur nos tables?
Oui, alors ça c'est assez récent finalement, puisque encore au début du XXe siècle, le fromage était couramment consommé finalement au dessert, voire après le dessert. D'où l'expression qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais certains auditeurs la connaissent. On dit, ils ont parlé de ça entre la poire et le fromage.
Exactement.
Et moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi on dit entre la poire et le fromage? On devrait plutôt dire entre le fromage et la poire. Mais ça traduit simplement cette idée que le fromage est quelque chose qu'on va manger à la fin du repas. Et ça, c'est pas nouveau. Ça date du Moyen-Âge. On considérait que le fromage, et surtout un fromage vieux, un fromage affiné, eh bien, ça a la vertu de pouvoir fermer l'estomac, c'est-à-dire d'empêcher les aliments qu'on a ingérés auparavant de remonter dans l'œsophage, ce qui serait pas formidable. Et donc, on a cette idée du fromage. Bon, alors après, évidemment, les mentalités et les connaissances vont évoluer et on va se mettre. Alors, à faire du fromage, on le disait, cette spécificité française qui est d'avoir le plateau de fromage. Alors, pourquoi en France particulièrement? Je l'ai dit en commençant, la France est une terre de fromage. Déjà, on a la chance d'avoir un climat tempéré qui est génial pour l'agriculture et pour l'élevage. On peut produire de l'herbe. Il y a même des régions où il y a de l'herbe en été parce qu'il pleut suffisamment. Donc on peut faire de l'élevage d'étiers, avoir beaucoup de lait. On a parlé, et puis tous les microclimats et tous les terroirs que l'on a qui expliquent la diversité des fromages, les savoir-faire, les traditions culturelles, les moines, évidemment, on en a parlé, qui ont joué leur rôle. Donc tout ça va contribuer, donc la géographie, l'histoire, la culture, les savoir-faire, à faire de la France, comme le dit la pub, un énorme plateau de fromage. On considère aujourd'hui qu'il y a peut-être 1500, voire 2000 fromages différents.
Et ils sont délicieux. Éric Birlouez, pour terminer cet entretien, j'ai une question fondamentale à vous poser. Vous êtes prêt?
Je vous écoute.
Quel est votre fromage préféré? Quelle est son histoire?
Alors, moi, oui, c'est difficile. C'est comme si vous me demandiez si je préfère ma fille ou mon fils. Bon, alors, ce qui me vient à l'esprit, moi, j'aime beaucoup le comté. En plus, là, il y a une histoire, évidemment, autour du comté, avec les fruitières du Jura, etc. Les poisses, que j'ai encore dégusté ce week-end, fromage bourguignon, que je trouve absolument génial. Mais j'ai une préférence qui n'est pas seulement gustative, mais aussi affective pour le maroilles, parce que je suis originaire du nord de la France. Et le maroilles, d'ailleurs, c'est la seule AOP fromagère de cette région. Une AOP ancienne, hein, puisqu'elle va avoir bientôt, je crois, plus de 50 ans. Alors, l'histoire de ce fromage, en fait, elle est ancienne. Là encore, c'est un fromage monastique, comme le Roquefort, comme le Brie, etc. Il y a des moines qui, au 7e siècle, vont construire une abbaye dans le petit village de Maroilles, dans le nord de la France, et qui vont se mettre à fabriquer du fromage, qui s'appelle pas encore Maroilles, mais qui va s'appeler Maroilles au bout d'un moment, qui va prendre le nom du village, et les moines vont transférer aux paysans du coin leur technique de fabrication, leur recette pour faire du fromage de Maroilles. Alors c'est un peu intéressé malgré tout, parce que il y a un impôt qui est dû à l'église, qui est dû au monastère, qui est que chaque paysan qui possède au moins une vache doit livrer un fromage, ou peut-être plus, en cas de grande quantité, à l'abbaye chaque année. Donc on a vraiment, là aussi avec le maroilles, ce rôle très important des moines dans l'élaboration et dans le perfectionnement des techniques de fromage. Et puis les moines écrivaient. Donc ils vont consigner par écrit leurs recettes et ils vont oralement, cette fois, les transmettre aux paysans.
Merci Eric Birlouez. Moi, j'ai très envie d'un plateau de fromage. Je ne sais pas si nos auditeurs aussi, mais en tous les cas, je trouve que cet entretien ouvre l'appétit merveilleusement. Donc je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un livre passionnant, Petite et grande histoire des céréales et légumes secs, paru aux éditions Quae, et un autre livre intitulé Du steak de mammouth au yaourt, Histoire des 30 aliments qui ont bouleversé nos vies aux éditions Ouest France. Merci Eric Birlouez. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Nathan Laporte et Caroline Garnier. À la réalisation, Julien Tarot. À la direction artistique, Julien Tarot encore. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Marie Corpet et Nathan Laporte. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et sur l'appli Europe 1, ainsi que tous les week-ends à 15h sur nos antennes. Merci beaucoup, à bientôt.